Vous êtes sur RTL.
Tentez.
RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
Il est 8h22, c'est un mouvement citoyen inédit, né en Suède, la honte de prendre l'avion ou comment boycotter le transport aérien pour protéger l'environnement des émissions de gaz à effet de serre, surnommé aussi en termes suédois le Fluxcam. Bonjour Alexandre de Juniac.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes le directeur général de l'Association internationale du transport aérien, vous êtes aussi l'ancien patron d'Air France. Ce mouvement qui prend de l'ampleur chez les jeunes générations vous inquiète-t-il ?
Ce mouvement nous inquiète parce qu'il est fondé sur une complète méconnaissance de ce que l'industrie aéronautique et les compagnies aériennes font pour limiter leur empreinte carbone. Et ce qu'on fait depuis plus de 10 ans maintenant, on a pris des engagements mondiaux. Le premier engagement, c'est de réduire nos émissions de carbone par passager jusqu'en 2020. À partir de 2020, d'avoir une croissance neutre en carbone. Et en 2050, de diviser nos émissions de CO2 par deux comparé au niveau 2005. On est la seule industrie au monde à avoir pris des engagements de la sorte. Donc ça, c'est la première chose.
D'ores et déjà, pardonnez-moi Alexandre Juniac, d'ores et déjà suivi des faits.
Premièrement, le premier engagement qu'on avait pris, qui était de réduire les émissions par passager à partir de l'année 2010 jusqu'en 2020, non seulement on les a réalisés, ces engagements, mais on les a même dépassés, figurez-vous. Et d'autre part, toute l'industrie s'est mobilisée. C'est une industrie sérieuse, c'est une industrie qui en plus innove beaucoup. Donc l'innovation technologique, les sciences, c'est un peu dans l'ADN de notre industrie. Et donc quand on prend un engagement, on le tient. Voilà. Et donc toute l'industrie, les constructeurs aéronautiques, les contrôleurs aériens, les compagnies aériennes ont mis en place des mesures extrêmement volontaires et très 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 ambitieuses pour réduire notre empreinte carbone.
Donc vous nous dites que vous avez initié le mouvement, contrairement à il y a une dizaine d'années, mais dans l'absolu, Alexandre Juniac, une baisse des émissions est-elle vraiment possible alors que le trafic mondial de voyageurs ne cesse de progresser et il va continuer d'exploser ?
Ben justement, l'engagement que nous avons pris à l'horizon 2050 de diviser nos émissions par deux par rapport au niveau de 2005, il tient compte de la croissance, c'est-à-dire d'un quadruplement du trafic. Donc avec le quadruplement du trafic, nous divisons les émissions par deux. Alors comment on va faire ça? D'abord, on va optimiser nos opérations. Sachez simplement que le fait d'attendre dans le ciel européen, par exemple, ou de ne pas arriver aux aéroports à l'heure, c'est 15% d'économie. Si on arrive à arriver à l'heure et si on parvient à raccourcir les trajectoires, rien que ça. Deuxième élément, comme vous savez, les avions sont beaucoup plus économes en carburant. C'est 20% de moins de consommation de carburant pour les avions de nouvelle génération. Et puis troisièmement, nous avons convaincu 193 États dans le monde, dans le cadre de l'Organisation d'aviation civile internationale, d'adopter un programme de compensation des émissions carbone qui soit applicable dans le monde entier.
Les Américains l'ont signé.
Absolument, absolument. Ils étaient même très très en pointe avec les Européens pour faire adopter ce programme par les 193 États de la planète. Et c'est absolument remarquable.
Concrètement, comment cela va-t-il se passer? Ça se traduit par quoi?
Alors, ce programme est un marché de compensation des quotas carbone. C'est-à-dire que nous pourrons acheter, nous, les compagnies aériennes, des quotas carbone pour compenser les émissions que nous faisons. Alors, il y a un dernier point.
Pardonnez-moi, mais excusez-moi, la notion d'achat de quotas peut paraître obscure à ceux qui nous écoutent.
C'est vrai.
On va planter des arbres, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on va investir, on va acheter un nombre de projets dans lesquels qui réduit les émissions carbone, soit en plantant des arbres, soit en faisant du recyclage, ce qui permet de compenser les émissions que les réacteurs de nos avions, pour l'instant, sont obligés, parce que les sciences n'ont pas encore permis de complètement les arrêter, de compenser les émissions de CO2 par nos réacteurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des manières de réduire notre empreinte carbone, c'est d'utiliser des biocarburants. Et pour ça, on a besoin de la mobilisation des États. C'est absolument clé. Si on veut réussir la baisse de l'empreinte carbone de l'aviation, il faut qu'on utilise des biocarburants. Et pour ça, il faut que les États se mobilisent, soit pour en diminuer le coût, soit pour en améliorer la distribution, tout simplement pour qu'on puisse en trouver sur les aéroports.
Mais pardonnez-moi, utiliser des biocarburants, ça veut dire utiliser par ailleurs des surfaces agricoles pour produire... Alors, c'est important que vous le précisiez, parce que sinon, ça créera une nouvelle polémique.
Nous, ce que nous proposons, c'est d'utiliser des biocarburants à partir, disons, de carbone déjà émis, pas de carbone fossile.
D'accord.
Ça peut être, par exemple, le recyclage des huiles usagées.
Voilà. Je vous êtes confronté.
Et ça fonctionne, hein, c'est-à-dire qu'on a déjà des vols, des centaines de milliers d'heures de vols et d'avions qui volent à du biocarburant. Donc c'est pas un fantasme, hein, c'est une réalité d'aujourd'hui.
J'aimerais qu'on s'arrête sur le choix des mots parce que vous êtes confronté finalement à une épreuve de communication. Ce sont des jeunes gens qui parlent, ils parlent de honte et en fait ils procèdent par un processus de culpabilisation qui consiste à dire nos aînés qui faites tourner la planète et notamment pour des raisons économiques, vous allez nous la laisser dans un état épouvantable. Les jeunes parlent de honte quant au fait de prendre l'avion. Qu'avez-vous à leur répondre ?
Je leur réponds deux choses. Non seulement ce n'est pas une honte, mais c'est une fierté de travailler dans un secteur qui permet de réunir les gens, de rapprocher les cultures, d'échanger des biens, de voyager, de découvrir. Moi, c'est une fierté. Je l'appelle, moi, l'aviation et les compagnies aériennes. C'est, en anglais, on dit le business of freedom, c'est l'activité de la liberté.
Mais vous avez l'impression d'être confronté à une campagne de fake news. Vous nous dites...
fake news, c'est peut-être un grand mot, mais une méconnaissance et une incompréhension complète à la fois des enjeux de l'aviation, de ce qu'elle apporte dans notre monde. Notre monde ne serait pas ce qu'il est sans l'aviation, d'une part, et d'autre part, une complète méconnaissance de ce que l'aviation fait, justement, pour diminuer son empreinte carbone, parce qu'elle a pris conscience, il y a 10 ans, que c'était un énorme problème pour la planète. On a été les premiers à le faire, et à cette échelle. On mériterait plutôt une reconnaissance plutôt que de la honte.
Et Emmanuel Macron s'est dit favorable à la taxation commune du kérosène en Europe. Est-ce que vous y êtes favorable, Alexandre Junier ?
Non, il n'est pas favorable. Parce que, pour une raison simple, c'est que, d'une part, le kérosène est déjà un coût très, très élevé pour les compagnies aériennes. Donc on n'a pas besoin, absolument pas besoin de ça, pour faire des économies de carburant et réduire notre empreinte carbone. D'autre part, l'aviation est très taxée déjà. Et donc, ce que nous disons, c'est que ce sera payé par les passagers qui ne pourront plus profiter du formidable développement des liaisons aériennes mondiales. Vous savez quand même qu'il y a 22 000 paires de villes qui sont reliées dans le monde tous les jours.
Vous nous dites on est trop...
Formidable.
Vous nous dites on est trop taxé, mais quelle est la part de cette taxe, en l'occurrence, aujourd'hui sur le prix d'un billet en pourcentage, les taxes sur le kérosène?
Écoutez, si vous prenez par exemple, à Paris-Nice, que vous avez payé, qu'on peut imaginer payer 70, 80 euros, disons, imaginons, vous avez au moins 30 ou 40 euros de taxes.
C'est énorme, en effet.
Votre ex-compagnie.
Non, mais pour faire comprendre les enjeux, notamment dans nos changements d'habitude, votre ex-compagnie, hein, Air France, elle fait des billets Paris-Marseille à 36 euros ce week-end.
Donc,
on peut dire c'est extraordinaire, tout le monde peut prendre l'avion, ou on peut se dire il serait peut-être temps de monter dans le TGV et de réserver les vols à des distances plus importantes. Que choisissez-vous ?
Je choisis, après, c'est une question un peu personnelle, là, si on préfère le train ou l'avion, d'abord, en première chose. Deuxièmement, je dis que l'empreinte carbone du train n'est pas égale à zéro, comme vous le savez. Hein, donc, si c'est ça qui doit être le facteur de choix, je veux dire aux gens, faites un peu attention.
Le sous-entendu, c'est nos trains circulent au nucléaire, pour dire les choses simplement.
Mais le train émet du carbone, puis voilà. Alors, il émet plus ou moins en fonction de la production d'électricité qu'il alimente. Voilà, hein, ça, c'est au charbon, il en émet beaucoup, si c'est au nucléaire, il n'en émet pas.
La mise au point de Alexandre Juniac, excusez-moi, il faut qu'on se sépare. Je vous remercie d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Vous nous expliquez que l'univers que vous représentez, celui du transport aérien, a pris beaucoup plus tôt qu'on ne le pense en charge ces questions, et avec un projet de division de 50% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Merci beaucoup d'être intervenu sur l'antenne d'RTL. Ce débat va continuer, vous l'imaginez bien, et dans quelques instants, on va faire un